Bonjour à chacun. Permettez-moi de rappeler en quelques mots le contexte qui précède le récit qui va nous intéresser ce matin, à savoir la dédicace du temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Comme nous l'avons lu dimanche dernier, 480 années ont séparé la sortie du peuple d'Israël, alors en esclavage, et le début de la construction du temple. Temple dont les fondations avaient été posées en 966 avant Jésus-Christ, soit 4 ans après l'investiture de Salomon. Jusque-là, c'était le tabernacle, donc ce sanctuaire démontable, transportable, littéralement l'habitation de Dieu au milieu de son peuple, qui était le centre de la vie spirituelle et religieuse du peuple d'Israël. Et il symbolisait la présence de Dieu. La construction du temple avait nécessité 7 ans et demi de travaux. Et il s'est encore écoulé plusieurs mois, presque une année complète, entre la fin de la construction et la dédicace du temple. Alors cette dédicace du temple n'est pas une simple inauguration. C'est pas juste un simple discours, on coupe un ruban et on boit un coup. Mais c'est vraiment, comme son nom l'indique, un acte qui visait à dédier le temple à Dieu, à le lui consacrer. Et on le verra tout à l'heure, le roi Salomon a fait coïncider cette dédicace avec l'une des fêtes du peuple d'Israël. Le roi David avait à cœur de remplacer le tabernacle par un temple en dur, par un temple en pierre, quelque chose de somptueux, de glorieux, de majestueux, et tout cela en l'honneur de l'Éternel. Dieu avait approuvé son projet, mais comme à cause de son passé guerrier, du sang qu'il avait versé, ce projet a été confié à son successeur, à son fils, le roi Salomon. David avait cependant largement contribué au projet, puisque Dieu lui avait indiqué à la fois l'emplacement, fourni les plans, les caractéristiques, les matériaux à employer, les objets à fabriquer et les consignes à suivre pour les services religieux. Et une fois la construction achevée, l'Arche de l'Alliance avait été ramené d'Israël, où David l'avait stocké provisoirement sous une tente. Et le tabernacle et les ustensiles ont été ramenés de Gabaon, qui était à ce moment-là le centre du culte des Israélites. Alors le texte de ce matin se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, les versets 23 à 66. Et j'ai encore rajouté 3 courts passages du texte parallèle qui se trouve dans le livre des Chroniques, qui apporte quelques éléments complémentaires. Le temple est construit depuis bientôt une année et les Israélites peuvent apprécier son architecture. Lors de la dédicace, le peuple pouvait voir 2 colonnes en airain imposantes et richement ornées qui s'élevaient derrière Salomon à l'entrée du temple. Et chacune d'elles portait un nom. Jachin pour celle de droite qui signifie « il établira ou il affermira » et Boaz pour celle de gauche qui signifie « en lui la force ». En nommant ainsi les colonnes, Salomon reconnaissait d'une part que derrière la construction humaine, il y avait un Dieu qui bâtissait et qui établissait le temple par sa force. Mais au-delà, elle symbolisait aussi la force et la stabilité de la promesse divine faite à David d'un royaume éternel. Elle symbolisait la force et la stabilité de la promesse divine faite à David d'un royaume éternel. Je m'explique. Dieu avait fait la promesse au roi David qu'il y aurait toujours un successeur sur son trône et que le dernier occupant de ce trône régnerait éternellement. Et cela en dépit de ce que ferait l'ennemi et en dépit de la désobéissance et de l'infidélité des différents successeurs sur le trône, à commencer par Salomon lui-même. Et je fais référence ici au psaume 89, psaume qui parle de l'alliance de Dieu avec David. Au verset 4 de ce chapitre, de ce livre, on peut lire, c'est Dieu qui parle, « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » Et un peu plus loin dans le texte, au verset 37, Dieu enfonce le clou en disant « Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. » Et le fait que certains descendants de David abandonneraient sa loi, ne marcherait pas selon ses ordonnances, violerait ses préceptes et n'observerait pas ses commandements, ne changerait pas la donne. » Ce sont les versets 31 à 33. Bien des générations plus tard, Jésus-Christ, issu de la postérité de David, comme on peut le voir dans les généalogies de Matthieu et de Luc, dira par la bouche de Jean dans Apocalypse 22, 16, « Je suis le rejeton, c'est-à-dire la racine et la postérité de David. » Verset qui atteste à la fois la pleine divinité et la pleine humanité de Christ. Christ, le Créateur, est à l'origine de la vie de David, mais Jésus est aussi issu de la postérité de David. Et à deux reprises dans le livre de l'Apocalypse, Christ est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. 11 mois se sont écoulés entre la fin de la construction et la dédicace du temple. Et on est dans la période octobre-novembre, au 7e mois de l'année sacrée des Israélites, qui est le mois d'Étanim, littéralement le mois des pluies abondantes, qui correspond avec la fin des récoltes et des vendanges, une période de repos accompagnée de festivités et de joie. La vie des Israélites était ponctuée par 7 fêtes majeures tout au long de l'année. 3 fêtes au premier semestre, 3 au second semestre, et puis une juste au milieu qui fait charnière, la fête des semaines qui est devenue pour nous la Pentecôte. Et ces fêtes avaient toute une portée prophétique, c'est-à-dire qu'elles préfiguraient ou représentaient quelque chose de plus excellent à venir. À titre d'exemple, la Pâque juive avec le sacrifice d'un agneau parfait, d'un agneau sans tache, est une image de Christ, sans péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sacrifié à la croix. Et donc Salomon a fait coïncider cette période de dédicace avec la dernière des 7 fêtes, la fête des tabernacles, qu'on appelle également la fête des tentes, des huttes, des cabanes, mais aussi la fête des récoltes. Et durant cette fête, les Israélites devaient quitter temporairement leurs habitations en dur et habiter sous des tentes faites de branchages. On voit ça dans Néhémie au chapitre 8. Et donc cela rappelait aux Israélites leur libération de l'esclavage et le fait qu'ils habitaient dans des tentes à ce moment-là. Et à l'opposé des souffrances de l'esclavage, cette fête soulignait pour les Israélites le repos, la paix et la prospérité dues à la fidélité de Dieu à leur égard. Et cette fête était joyeuse, elle coïncidait avec la fin des récoltes et des vendanges après des mois de labeur et invitait les Israélites à la gratitude. À l'instar des Israélites qui habitent sous des tentes de façon temporaire pendant la fête des récoltes, nous aussi nous habitons sur cette terre de façon temporaire et transitoire. L'apôtre Paul disait d'ailleurs aux Corinthiens, « Nous savons en effet que si cette tente, donc notre corps où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et pas nus. » Une invitation à mettre nos vies en règle avec Dieu et de racheter le temps. Pour bon nombre de commentateurs, la fête des récoltes des Israélites est pour nous une représentation du futur, de la joie des croyants dans la présence de Christ, le Messie. Et je crois qu'un culte de reconnaissance ou de récolte, appelons-le comme on veut, aurait sa place dans notre Église, non seulement pour se réjouir de l'œuvre de la rédemption de Dieu au travers de Jésus-Christ, mais aussi pour sa providence et sa fidélité jour après jour. Si je fais appel à mes souvenirs d'enfance, à l'école primaire ou au collège, on nous avait appris à nous lever lorsque le directeur ou le proviseur de l'établissement rentrait en salle de classe. Alors, les choses ont bien changé depuis. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé dernièrement au collège de Bulle, lorsque des enfants de 6e, des enfants de 10, 11 ans, ont lancé d'un commun accord leur trousse sur le prof de musique. Les pauvres chéris ont 1 heure de colle. Voilà où on en est dans une société qui nous appelle à l'insoumission. On ne se levait pas à cause de la personne elle-même, mais à cause de son statut, de sa fonction, de l'autorité qu'elle représentait. Dans notre récit, nous sommes en présence d'un roi, une figure d'autorité, un souverain qui avait droit de vie et de mort sur ces sujets. Mais ce roi, en s'agenouillant publiquement sur cette estrade d'airain, va montrer au peuple qu'il y a une autorité supérieure à la sienne à laquelle il faut se soumettre, le roi des rois. Et il va accompagner sa gestuelle par des propos qui devraient retenir notre attention. Et là, on peut faire le parallèle avec une prière formulée par l'un de ses descendants, un arrière-petit-fils, le roi Josaphat, qui, lorsque trois peuples viennent à sa rencontre pour lui faire la guerre, se dispose à chercher l'Éternel, et il s'est adressé à lui d'une façon particulière. Il a commencé à louer Dieu pour ce qu'il est, pour ses attributs. Il va ensuite poursuivre en faisant preuve de reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait par le passé. Et c'est seulement ensuite qu'il a formulé sa requête en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Et quand on lit le texte, suite à l'intervention divine, les Moabites, les Ammonites et les Maonites se sont entretués. Et Salomon, dans notre texte, va s'adresser à Dieu de la même manière. Les prières de ces deux hommes sont des modèles pour nous lorsque nous avons une requête, un besoin, un problème, une crainte. Louange, reconnaissance, requête. Tout d'abord, louange. « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Salomon exhorte ici le peuple à avoir un cœur entier à l'Éternel, ce Dieu qu'il décrit ici comme unique, fidèle et plein de bonté. Ensuite, reconnaissance. « Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. » Salomon établit ici la fidélité de Dieu qui a accompli une double promesse, à savoir qu'un fils serait suscité à David pour s'asseoir sur son trône et que ce fils construirait le temple. Et enfin, on a la requête, ou du moins l'introduction à la requête. « Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. » Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Conscient de la nature pécheresse du cœur humain, comme il va le souligner au verset 46, « Tous pêchent », et qui fait écho à un verset qu'on connaît bien, qui se trouve dans l'Épître aux Romains, qui dit « tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu », le ton est donné par Salomon. La reconnaissance des fautes et le pardon de Dieu sont les conditions préalables aux exaucements de prière. La reconnaissance des fautes et le pardon de Dieu sont les conditions préalables aux exaucements de prière. Mais pour obtenir ce pardon, une démarche personnelle intérieure est demandée. Au verset 38, on peut lire « Lorsque chacun connaîtra la plaie de son cœur et tendra les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. » Et si vous l'avez peut-être remarqué, Salomon va entourer sa prière de supplication par deux expressions identiques que l'on trouve à la fois au verset 29 et au verset 52. « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. » Une façon pressante et insistante de demander à Dieu de manifester constamment sa présence et sa protection. Salomon va alors évoquer sept cas précis de requêtes faites par les Israélites dans le temple, faites par les étrangers dans le temple, et enfin faite par les Israélites en pays étranger avec le regard tourné vers le temple. Dans le premier cas, Salomon demande à Dieu, en tant que juge suprême, de désigner, en cas de litige et de témoignage fait sous serment, qui est réellement coupable et qui est réellement innocent. Dans les trois cas suivants, Salomon demande à Dieu de délivrer les Israélites de leurs ennemis, de leur accorder la pluie après la sécheresse et de les libérer des fléaux comme la famine ou la peste, s'ils reconnaissent leurs fautes et demandent pardon. Châtiment que Dieu avait permis pour que les Israélites se repentent et reviennent sur le droit chemin. Alors je vous rappelle que nous sommes ici dans le contexte de l'ancienne alliance. Le peuple fait le bien, il est béni, il fait le mal, il est maudit. Ce n'est plus le cas aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance, même si Dieu peut employer tous les moyens qui sont à son service pour nous ramener sur le droit chemin. Dans le cinquième cas, Salomon demande à Dieu qu'il exauce les prières des étrangers et des païens, et cela de façon inconditionnelle, parce qu'ils sont venus volontairement pour rendre hommage à Dieu. Dans le sixième cas, dans la sixième requête, Salomon demande à Dieu d'être aux côtés du peuple quand il sera amené à faire la guerre. Et enfin, en dernier, Salomon demande à Dieu, dans le cas où le peuple est en captivité pour avoir désobéi, mais désobéi de façon répétée, continue, que les ennemis aient de la compassion à l'égard du peuple et qu'ils exaucent les prières en cas de demande de pardon. Le roi Salomon va alors se lever car il va adresser cette fois-ci une prière au peuple qu'il va commencer par bénir et ensuite il va réitérer ses propos de la première prière. Il bénit Dieu, demande sa présence et son aide pour que lui et le peuple suivent avec fidélité jour après jour et cela dans un but bien particulier, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et après un grand nombre de sacrifices et de sacrifices d'actions de grâce, Dieu va agréer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et manifester sa présence de façon surnaturelle. Et tout le peuple va alors célébrer la fête pendant 2 semaines dans une grande joie. Selon le commentateur John MacArthur, le temple était le centre du culte qui appelait le peuple à des croyances justes. Il symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il symbolisait le pardon qui rappelait au peuple la gravité du péché et la grâce divine. Il préparait le peuple au travers du système sacrificiel à la venue du véritable agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et enfin, le temple était un lieu de prière. Donc, en résumé, le temple est donc un lieu d'intercession, un lieu de repentance et un lieu de conversion. Et il en est de même pour l'Église. Alors pour nous, il n'est plus question de sacrifice d'animaux, mais de sacrifice vivant. Nous sommes appelés à nous offrir librement, abondamment, avec tout ce que nous possédons. Notre temps, nos talents, notre argent, notre énergie, nos possessions, nos vies. Et dans quel but ? Celui de rendre gloire à Dieu. Alors j'ai eu le privilège, il y a quelques années, de visiter le chantier du centenaire de l'Institut biblique de Genève. Chantier de rénovation conséquent. J'ai eu droit à une visite privée, là où c'est interdit au public. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné, mais une chose a attiré mon regard au niveau de la toiture. Les lattes et les contrelattes, donc ce qui sert à maintenir les tuiles, étaient rabotées, chanfreinées et probablement étuvées. Un matériel impeccable et une mise en œuvre soignée, que plus personne ne voit depuis que les tuiles recouvrent la toiture. Quel intérêt ! Simple choix de l'architecte, suisse en l'occurrence. Pour lui, tout chantier de construction, de rénovation, vitrine potentielle pour d'autres chantiers, doit être impeccable de A à Z. D'où le choix de matériaux de qualité et d'artisans chevronnés. Lorsque le temple nous a été décrit dimanche dernier par Josué, nous avons vu que même les matériaux destinés à être recouverts d'or devaient être impeccables, beaux, nobles et soignés. Tout dans le temple, même les choses invisibles, devaient refléter la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, « Nous, les chrétiens, sommes le temple de Dieu. » De Corinthiens 6, 14 et suivant. Au départ, Dieu s'était choisi un peuple à qui il avait dit « Vous serez pour moi une nation sainte », c'est-à-dire une nation mise à part. Et c'est d'ailleurs ce que Salomon dit en substance au verset 53 quand il dit « Tu les as séparés de tous les autres peuples ». L'apôtre Pierre, bien des siècles plus tard, reprendra les propos de l'Ancien Testament en disant aux chrétiens « Vous êtes une race élue, une nation sainte ». Et dans ce même chapitre, il va parler de Christ, à la fois pierre angulaire et pierre vivante. Et il va encourager les chrétiens eux-mêmes, pierre vivante, à s'édifier pour former une maison spirituelle dans le but d'être agréable à Dieu par Jésus-Christ. La suite de sa lettre est un vif encouragement à avoir un comportement modèle vis-à-vis des autorités, dans le cadre du travail, dans la famille, dans l'église et dans des situations personnelles compliquées. Et tout ça dans l'unique but de rendre gloire et honneur à Dieu. Mais comment rendre gloire et honneur à Dieu? Et là, je vous renvoie au livre « Nouveau catéchisme pour la cité ». Un des chapitres de ce livre s'intitule « Comment pouvons-nous glorifier Dieu ?» La réponse commence ainsi. « Nous glorifions Dieu en nous réjouissant en lui, en l'aimant, en lui faisant confiance et en obéissant à sa volonté, à ses commandements et à sa loi. » Et un peu plus loin dans le chapitre, l'auteur dit la chose suivante. « Si nous désirons sincèrement honorer notre Sauveur, nous devons agir selon ce qu'il nous a ordonné. Mais cela ne signifie pas obéir juste parce que nous risquons d'être punis. Non, c'est comprendre à quel point son amour pour nous est grand, de sorte que, par amour pour lui, nous désirons marcher à ses côtés. Si nous comprenons cela, nous disons, j'ai compris que, parce qu'il m'a tant aimé, la réponse de mon cœur est de l'aimer en retour. » Et pour conclure, je lirai la prière en conclusion de ce chapitre. Dieu de grâce, nous voulons te connaître pleinement et trouver notre plaisir en toi. Ouvre nos yeux, nous voulons te voir tel que tu es afin de te faire confiance et te désirer de tout notre être, garder tes commandements. Que ce soit nos petits gestes de générosité ou de grands exploits courageux, que tous nos actes d'obéissance te rendent gloire. Amen.